invité est Gaëlle Vigouroux. Vous êtes conseillère régionale depuis 2015 et élue sur les listes socialistes menées par Jean-Yves Le Drian. Et vous êtes également vice-présidente du parc naturel régional d'Armorique. L'actualité européenne est brûlante. Brexit, élections européennes et montée des populismes. L'Union européenne est-elle un tournant de son histoire ? Notre invité, Gaëlle Vigouroux, est donc une élue au fait de ce qui se passe sur le territoire. À des années-lumière de l'Europe ?
Est-ce que l'Europe joue un rôle sur notre région ? On reproche souvent à l'Union européenne d'être distante et éloignée des territoires. Vous l'avez compris, nous avons de nombreuses questions à poser à Gaëlle Vigouroux qui a accepté de venir répondre à nos questions. Nous vous poserons des questions sur notre région et son lien à l'Europe, et plus largement des questions autour de l'Union européenne.
Quel est le rôle de l'UE dans notre quotidien au niveau local ?
L'Europe est partout. On ne la voit pas toujours, mais elle est partout. Par exemple, aujourd'hui, vous ne construisez plus une médiathèque, par exemple, sans avoir le soutien de l'Europe. Vous ne pouvez plus non plus, enfin vous pouvez, hein, mais tous les programmes qui sont liés à l'égalité, qui sont liés à l'insertion des jeunes, par exemple, sont aussi cofinancés par des fonds européens. Alors ça ne se voit pas toujours, mais l'Europe, elle finance tous les projets structurants qui se passent, qui se construisent sur le territoire. Ça, c'est la première chose. C'est important de le rappeler parce que aujourd'hui, une collectivité locale, quand elle ne maîtrise pas, par exemple, la recherche de fonds européens, eh bien, elle se coupe de financement pour développer des projets structurants sur son territoire. Donc, cette compétence européenne, elle est très importante. Elle n'est pas encore assez, construite en Bretagne en termes d'acteurs pour accompagner les collectivités, les entreprises, pour amener des nouveaux projets européens. Et pour vous dire, on n'utilise pas toutes les enveloppes européennes aujourd'hui en Bretagne, alors qu'on a beaucoup de besoins de développement sur les territoires. Donc l'Europe, elle est partout. Elle est, on parle de fonds et de développement des territoires. On pourrait aussi parler d'échanges. Par exemple, tous les étudiants bretons, s'ils le souhaitent, peuvent avoir un cursus qui allie l'Europe dans leur cursus. Vous connaissez le programme Erasmus, par exemple, qui vous sera directement, vous serez directement concerné après le bac en termes d'études supérieures. Vous pouvez déjà suivre des cursus européens au lycée. C'est quand même une façon aussi de prendre en compte l'Europe dans votre cursus et demain de tisser des échanges avec les étudiants partout en Europe pour justement enrichir les pratiques et développer ce réseau de jeunes européens puisqu'on est tous français, ok, mais on est aussi européens. D'accord. Donc ça c'est important. Et l'Europe elle est aussi dans les relations entre différentes communes, par exemple dans les comités de jumelage, on va retrouver également des liens culturels entre les différents territoires. Après, pour parler de l'Europe, il y a deux secteurs qui sont particulièrement impactés, notamment par le Brexit. C'est bien la pêche et la question des ports bretons, qui aujourd'hui ne sont pas retenus dans la stratégie européenne. Donc en effet, l'Europe est présente, l'Europe finance beaucoup de choses, mais l'Europe aussi parce qu'elle est à un tournant de son histoire, c'est plus l'Europe qui est à un tournant de son histoire, et c'est notre histoire aussi, elle peut créer des difficultés derrière, puisqu'on ne sait pas exactement comment vont se passer les relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni.
Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer sur l'aménagement d'un territoire ?
Bien sûr. L'Europe, vous avez des fonds en fait territorialisés. Quand on, par exemple, je vais prendre un exemple, quand on construit une crèche sur un territoire, aujourd'hui, il y a des fonds qui sont des fonds locaux, qui sont amenés par les communautés de communes, des fonds d'État, par exemple, des fonds régionaux et des fonds européens. Donc, ce qu'on appelle, il y a un fonds qui s'appelle le FEADER, qui aide à construire des projets d'aménagement du territoire.
N'est-ce pas réducteur de considérer l'Europe comme un financeur de projets ?
Disons qu'il faut déjà montrer comment l'Europe intervient sur les territoires. Souvent, on va dire, oui, on ne peut pas faire ça parce que c'est l'Europe qui décide. On se cache très souvent, quand je dis « on », ce sont souvent les élus, en fait, même au niveau du gouvernement. Ils vont dire, voilà, on ne peut pas développer tel projet parce que l'Europe nous oblige à aller dans un autre sens. Ce n'est pas toujours vrai. Parfois, on va mettre sur le compte de l'Europe des décisions qui sont des décisions gouvernementales. Et c'est un petit peu comme si on buter sur la responsabilité. Donc ça, c'est déjà un biais. Non, l'Europe ne se résume évidemment pas au fond. Nous sommes aussi tous des citoyens européens. Et quand on développe justement la mobilité des jeunes à travers l'Europe, ce n'est pas pour avoir des appels de fonds ou pour développer des projets. C'est bien pour développer une conscience européenne auprès de la jeunesse pour justement faire ensemble. L'Europe, on peut la critiquer, beaucoup veulent la changer aujourd'hui. On a réussi à faire très bien l'Europe des marchés, justement. Mais est-ce qu'on a vraiment réussi à faire l'Europe des peuples ? C'est pas sûr. Il y a plusieurs optiques. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui considèrent que l'Europe des régions serait un bon moyen de rapprocher l'Europe des citoyens européens et de faire beaucoup plus d'actions territorialisées. C'est-à-dire que l'Europe, c'est loin. Si les fonds, mais même si les projets ils se mènent au niveau étatique, ben c'est encore loin. Mais s'ils se mènent à l'échelle d'un territoire, tout ça devient plus visible, tout ça devient bien plus concret. Et pour adhérer à une cause, pour adhérer à un projet, il faut des actions concrètes et visibles pour les citoyens. Sinon, on reste dans les hautes sphères. Or, aujourd'hui, en Europe, il est plus facile de faire circuler des marchandises, presque, que de faire circuler des hommes et des femmes. Donc, en effet, il y a vraiment, un axe à développer, c'est la citoyenneté européenne. Et le deuxième axe qui ferait sens auprès des citoyens, c'est tout ce qui est cohésion sociale. Or, vous verrez que dans l'enjeu européen, et je pense que vous allez me poser des questions là-dessus aussi, c'est bien la cohésion sociale aujourd'hui qui est un petit peu en danger au niveau du budget européen. Et pourtant, la cohésion sociale, c'est bien ce qui nous permet d'être un territoire européen équilibré où chacun peut vivre correctement et où la dimension commune, les communs que nous sommes capables de créer, fait sens pour chacun. Donc non, il n'y a pas que l'Europe des marchés, il faut aussi développer l'Europe des peuples.
D'accord. Qu'en est-il de l'idéal européen aujourd'hui ? Comment pourrait-on le relancer dans le contexte actuel ? Ne serait-ce pas la construction d'une Europe fédérale ?
Moi, je suis assez pour l'Europe fédérale, mais comme vous savez, à la région Bretagne, nous venons de signer un pacte avec l'État, un pacte de différenciation qui nous permet en fait d'être de force de proposition à l'échelle du territoire de la région Bretagne. C'est important de dire ça, puisque plus on a des démarches ascendantes qui répondent aux besoins du territoire, plus on aura des projets qui seront ce qu'on appelle congruents, c'est-à-dire dont les citoyens vont s'en emparer et qui auront vraiment de l'efficience et de la légitimité. Donc, ramener finalement certaines décisions à l'échelle de la région et donc pouvoir être c'est une pierre quelque part posée pour permettre d'avoir davantage de compétences régionalisées et donc aussi de porter davantage l'Europe en région. Pourquoi je dis ça ? Parce que déjà, c'est nouveau, dans ce mandat-ci, on a pu récupérer une bonne partie de l'articulation des fonds et donc du coup de la gestion de ces fonds européens, ce qui nous permet de développer des projets beaucoup plus congruents avec les besoins du territoire. Ça passe aussi par là. Donc oui, l'Europe des régions, c'est intéressant, mais vous verrez que tout le monde, ça ne fait pas consensus encore. L'Allemagne, qui est un État fédéral, arrive beaucoup mieux à travailler sur la dimension européenne. Si on prend par exemple la dimension environnementale, ils arrivent beaucoup mieux à travailler parce que l'échelle des Länder, donc l'échelle des régions quelque part, est vraiment une échelle intéressante car plus proche des territoires. Par contre, ici, en France, on a un pouvoir qui reste, et une organisation qui reste assez centralisée. Je vais prendre un exemple aujourd'hui. On peut, par exemple, quand on a une communication nationale dans une région, mettre le drapeau européen et le drapeau français, mais on ne peut pas mettre le drapeau breton. C'est-à-dire que l'identité des peuples reste un frein pour certains sur le fait de pouvoir régionaliser un certain nombre d'actions. On a peur de rendre la République divisible, quelque part, et on a peur des identités à cause de ça. Alors que on peut aussi avoir une vision de l'identité culturelle comme plutôt une richesse et un partage avec les autres peuples. Et on est tous descendants de différents peuples, en fait. Donc, normalement, ça devrait faire davantage sens.
En tant qu'élu régional et de territoire, quels sont les rapports au quotidien avec l'Union européenne ?
Eh bien, voyez, par exemple, dans 15 jours, je vais partir représenter la région et le parc naturel régional d'Armorique dans une convention européenne qui s'appelle Euromab pour aller travailler avec les autres partenaires européens sur les réserves de biosphère. Alors, réserve de biosphère, c'est la prise de conscience que on ne peut pas tout construire, on ne peut pas réserver les terrains uniquement, soit à l'agriculture intensive, soit au développement économique, mais qu'on doit garder des poumons vert, on doit garder des zones humides, on doit protéger notre bocage, on doit avoir une vision intégrée, quelque part, d'une alimentation de proximité. Et tout ça, ça demande à des acteurs de... d'échanger sur des bonnes pratiques, de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour pouvoir être vraiment plus efficient sur son propre territoire, et puis c'est faire en sorte que les acteurs qui participent aux réserves de biosphère, donc c'est la réserve de biosphère de la mer d'Iroise qui intègre le territoire ici du parc plus les îles, et c'est vraiment avancer ensemble sur la prise en compte de la biodiversité et la reconquête de la biodiversité. Et ça, on a besoin de s'inspirer des autres pour être meilleur soi-même dans ses pratiques. Un autre exemple, moi j'ai, avant d'être élue, j'étais aussi, j'ai travaillé dans une association qui déjà était, dont la moitié du budget était financée par l'Europe. C'était sur l'insertion et sur le développement de l'entrepreneuriat féminin. C'est la moitié du budget et ça a permis de créer 11 emplois sur le territoire. Un autre projet aussi intéressant, c'est on est en train avec le parc toujours de développer le géoparc. C'est un géoparc UNESCO, c'est une dynamique mondiale. Et là, on ne parle plus qu'européen, on parle monde. Mais aller travailler, par exemple, sur des flux de tourisme durable avec les Chinois, qui aujourd'hui visitent un pays en une demi-journée, et plutôt les faire découvrir un territoire et ses richesses en restant un peu plus longtemps, et c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul si on ne sort pas de chez soi. Par contre, si on va dans les rencontres européennes, dans les rencontres mondiales UNESCO, eh bien on apporte toujours des nouvelles ressources, des nouvelles richesses, des nouveaux contacts, et un territoire pour qu'il se développe, il faut qu'il soit en lien avec les autres. S'il est complètement fermé sur lui-même, eh bien il ne va pas aller très loin, et il va se priver aussi de leviers de développement. Donc l'Europe, elle est très très présente, elle est présente dans toutes les structures qui, ont envie de s'enrichir des autres, et c'est gérer c'est nécessaire en fait d'être européen. C'est nécessaire aussi en termes de géopolitique mondiale. Il faut faire contrepoids aujourd'hui entre les États-Unis d'un côté, les Chinois de l'autre. Tout seul, la France, on est un peu petit. Si on travaille à l'échelle européenne, on est beaucoup plus fort.
Avez-vous des cas concrets de projets marquants pour le territoire qui n'auraient pas vu le jour sans l'aide de l'Union européenne ?
Il y en a énormément. Je viens de vous en citer trois là, mais il y en a vraiment beaucoup. Je veux dire une médiathèque, par exemple, sur un territoire, c'est un projet européen. Le programme Entreprendre au féminin Bretagne est financé par des fonds européens. Vous avez un projet autour de la danse et de l'insertion sociale des femmes, c'est financé par les fonds européens. Les projets des missions locales sont parfois financés par des fonds européens. L'Europe est partout.
Comment pourrait-on faire pour faire davantage aimer l'Europe ?
Il faut voyager déjà et témoigner, c'est important. Vous qui êtes jeune, allez à la rencontre des autres jeunes européens et témoignez dans les lycées, par exemple, des actions que vous pouvez mener quand vous allez en Allemagne, quand vous allez en Angleterre. Voilà. C'est important d'avoir... En fait, on n'a pas de frontières, on se met des barrières. Sans doute parce qu'il y a la barrière de la langue, donc ça ne rentre pas dans notre quotidien. Mais on peut très bien avoir un réseau amical, un réseau de pairs qui puisse être à l'échelle européenne. Et vous pouvez lier dans certains programmes des relations avec les jeunes européens. Vous avez par exemple un programme qui est sur Rennes, mais qui peut se diffuser davantage. C'est les jeunes et l'Europe, par exemple, qui font des actions de sensibilisation, de mise en réseau, et qui aident les jeunes à monter un projet à l'échelle européenne. Par exemple, vous pouvez, pour faire aimer l'Europe, par exemple, quand je parle de création d'entreprise, il y a un programme qui s'appelle Erasmus for Entrepreneurs, qui permet à des créateurs d'entreprises d'aller passer quelques mois en stage dans une autre entreprise qu'on aura repéré parce qu'ils travaillent sur un peu la même sphère d'activité. Et l'entrepreneur, jeune, c'est uniquement jeune parce que c'est un nouvel entrepreneur, c'est un programme qui est accessible à tout le monde, il va être rémunéré pour aller en stage, pour apprendre et s'enrichir des pratiques d'une entreprise qui a déjà été développée dans un autre pays. En fait, pour faire aimer l'Europe, il faut la rendre concrète. Il faut faire savoir tout ce que l'Europe, toute l'implication qu'a l'Europe sur nos territoires et en parler de façon positive. Parce qu'il faut contrebalancer aussi, je crois, avec les populistes aujourd'hui qui prônent plutôt le repli sur soi, le fait que les peuples soient, qui prônent davantage la... je viens de perdre mon mot, mais en tout cas, la seule légitimité, c'est celle, la légitimité nationale, la souveraineté nationale. On n'a pas à avoir peur des autres. On a juste à considérer qu'on peut tous s'auto-apporter des choses. Donc c'est bien, comment dire, aux démocrates européens que de porter la voix de l'Europe et de montrer que l'Europe n'est pas un espace de privation de liberté, c'est un espace de construction de nouvelles libertés et notamment de construction d'un idéal social européen. Le plus grand danger qu'a l'Europe aujourd'hui, en plus du Brexit, c'est son budget. Le budget européen, il est jusqu'ici, il était, on va dire, pour moitié, il y a une moitié qui allait vers la PAC. Donc c'est la politique agricole commune qui permet d'accompagner les agriculteurs du territoire. Et vous savez les tensions que vivent les agriculteurs sur notre territoire. Donc qui permet de soutenir notamment les entreprises qui passent en bio. Les agriculteurs qui passent au bio aujourd'hui peuvent avoir des fonds européens justement pour être dans la protection de la nature. La PAC, c'est une grosse partie du budget. La deuxième grosse partie du budget européen, c'est la cohésion sociale. C'est tous ces programmes d'accompagnement de l'emploi, de l'insertion des publics les plus discriminés. Les jeunes, les femmes, les seniors, mais aussi d'autres parties de la population en fonction des secteurs qui sont en tension, donc l'emploi. Mais maintenant, vous voyez bien, l'Europe aujourd'hui, elle est en prise avec une crise migratoire qui est importante, qui est aussi liée à nos interventions dans les pays du Sud et dans le rapport entre les pays du Nord et les pays du Sud, l'exploitation des ressources, la question de l'eau qui est un bien commun, mais qui aujourd'hui est beaucoup privatisé par des grandes multinationales. Eh bien, ces questions, de frontières et de sécurité pour l'Europe deviennent deviennent une part du budget qui est importante. Sauf qu'on va rogner sur quoi ? On va rogner sur la cohésion sociale ou on va rogner sur la partie agricole ? C'est compliqué, puisque notre agriculture a besoin de s'adapter, notamment à la fois à des changements de volonté de consommateurs. Donc on a un vrai mouvement de conversion, de ne plus utiliser des pesticides, etc., et d'avoir des pratiques propres en agriculture. C'est un vrai mouvement qui se déploie, donc il faut accompagner ce mouvement. Ça ne se fait pas sans financement, quelque part. On a aussi... derrière, on ne peut pas rogner sur la cohésion sociale, parce qu'il faudra bien que le salaire moyen en Roumanie évolue à plus de 300 euros tel qu'il est actuellement par rapport au SMIC français qui est aujourd'hui à 1200 euros net. Vous voyez les écarts. Donc on ne peut pas à la fois ne pas faire l'Europe sociale et ne pas s'engager dans une vraie organisation. Est-ce que c'est une Europe à deux vitesses quelque part, une Europe des pays très développés, une Europe des pays moins développés, mais que les uns aident les autres et qu'il y ait plus de coopération intra-européenne pour soutenir justement le développement des pays de l'Europe du Sud. Voilà, sinon notre compétitivité, elle va complètement, baisser. Hein, est-ce qu'on peut être compétitif aujourd'hui et pourtant, on ne va pas baisser les salaires en France non plus, parce qu'on sait déjà qu'avec un salaire, on a du mal à vivre aussi avec le SMIC. Donc, voilà. Et à côté de ça, il faut regarder aussi et lutter contre tout ce qu'on appelle le travail à détacher, c'est-à-dire que des grosses multinationales, notamment en France, qui préfèrent embaucher des travailleurs détachés qui sont polonais, roumains, parce qu'ils peuvent les payer pas cher du tout, avec un taux de chômage qui est important en France, parce qu'on a du mal à rémunérer la qualification et la qualité du travail. Donc, tout ça, c'est des questions essentielles au niveau européen. Et si on rogne sur le budget de cohésion sociale, on risque d'avoir encore plus de mécontentement face à l'Europe et une montée des populismes encore plus forte, puisque ces questions de déséquilibre sociaux entre les pays, aujourd'hui, empêchent aussi l'Europe d'avancer. Voyez, et créer des freins. Donc il faut pour autant créer des frontières européennes, il faut aussi surveiller les frontières européennes, il faut accompagner les flux migratoires, il faut accompagner les migrants. La situation, quelque part, aujourd'hui, de faire porter à l'Italie ou à la Grèce, et un petit peu à l'Espagne aussi, l'arrivée des migrants sur le territoire européen, de laisser un certain nombre de migrants en mer, sous prétexte qu'on ferme complètement les frontières et qu'on vit une catastrophe humaine épouvantable, alors qu'on est aussi co-responsable du fait que les populations migrent vers l'Europe pour y avoir du travail et pour améliorer leur niveau de vie. Évidemment qu'il faut aussi prendre en compte et la défense et l'accompagnement des migrations. Mais voilà, donc là il y a plusieurs choix. Soit on rogne sur les budgets, soit on demande aux États de financer davantage l'Europe. ou d'amener plus de gouvernance, c'est-à-dire que certaines compétences qui étaient portées par les États soient portées aujourd'hui par l'Europe. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de freins, puisque entre l'Italie et la France, par exemple, on a une vision aujourd'hui de l'Europe et des freins liés à l'Europe qui sont très, très différents, en fait. Donc, il faut réussir à s'accorder. Et vous avez en Europe une règle qui est la règle de l'unanimité sur la prise de décision. C'est-à-dire que sur les 27 pays, si vous en avez un qui n'est pas d'accord, une loi ne passe pas. Donc, il suffit qui est un pays, voilà, et tout est bloqué. Donc il faut peut-être aussi mieux travailler sur la gouvernance européenne, la représentativité des pays et, comment dire, engager les États à davantage financer. Une autre, parce que la question est éminemment budgétaire, une autre piste serait de travailler davantage sur, des ressources propres pour l'Europe. Une nouvelle ressource a été proposée qui serait la taxation des transactions financières à l'échelle européenne. Et la troisième ressource, ce serait d'aller lutter contre l'évasion fiscale à l'échelle européenne, qui permettrait de renflouer aussi davantage le budget européen et de développer davantage d'actions. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour arriver vraiment à une Europe qui est performante, pas uniquement pour le transfert de marchandises et pour le business, qu'elle soit performante aussi pour les peuples.
Comment expliquez-vous le changement de regard de nos concitoyens sur l'Europe ?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont, comment dire, entretenues et des messages très négatifs qui sont entretenus sur l'Europe. Je pense que l'Europe agite, il y a des gens qui agitent les peurs, et notamment de la peur du projet européen, la peur de l'autre, et qu'on voit, on est dans une période de danger, parce qu'on a une montée forte des populismes, une montée forte aussi des extrêmes, et notamment de l'extrême droite. L'Italie, c'est compliqué, la Hongrie, c'est compliqué, la Pologne, c'est compliqué, donc il y a quand même un bloc à l'Est qui ne nous fait pas présager si justement on n'a pas une réponse bienveillante et organisée sur la question migratoire, hein. Ça fait très peur à terme, voilà. Après, il faut toujours rappeler que l'Europe produit des choses bien plus positives que ce qui est dit. Et lutter contre les fake news, parce que vous savez, il y a beaucoup de fake news. Il y a énormément de... Quand on dit, par exemple, qu'un migrant qui arrive va toucher plus d'argent de l'État français qu'un chômeur, par exemple, c'est des choses qui sont totalement fausses. Mais si on n'importe pas plus de débats au niveau européen, plus d'émissions sur l'Europe, plus de débats, plus d'interconnaissance, eh bien ce sont ces choses-là qui marquent, parce que c'est plus facile de trouver un bouc émissaire aujourd'hui que de construire l'Europe différemment. Et pourtant, c'est bien par la construction d'une Europe bienveillante, accueillante, fière de ses différences, qui permettra justement au peuple européen de faire peuple européen, vraiment, voilà, et pas segmenté, quoi. Voilà.
En tant qu'élu à la région Bretagne, comment la région pourrait répondre à l'inquiétude des Britanniques vivant sur le sol breton ?
Vous savez, il y a un grand mouvement de Britanniques aujourd'hui qui s'inquiètent et certains repartent au Royaume-Uni. Vous avez des gens qui sont installés depuis très longtemps et qui ont demandé d'être naturalisés français, et qui ont la double nationalité, voilà, aujourd'hui, et qui font des démarches pour avoir la double nationalité. Donc, tant que le Parlement britannique ne s'est pas positionné sur... c'est aujourd'hui, hein, c'est un moment historique, on attend. Est-ce qu'il y aura vraiment un Brexit ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Est-ce que le Parlement britannique, aujourd'hui, va accepter les propositions qui lui sont faites ? Rien n'est moins sûr. Et même, de mon avis, il va le refuser. Et il n'y aura pas d'accord. Donc ça veut dire que tout est à refaire. Et l'Europe a bien dit, c'est la dernière mouture. C'est la dernière proposition. Ça veut dire que sinon, il n'y a pas de Brexit. Donc ça veut dire que derrière, c'est comment est-ce que le gouvernement britannique, le Parlement, reprend la question en main, peut-être refait un nouveau référendum, peut-être avec un petit peu plus de sérénité, un peu moins de précipitation. Et vous savez, par exemple, que chez les Britanniques, les personnes qui ont fait campagne pour le Brexit ont quitté parfois leur mission et leur mandat. Ils n'assument pas, quelque part, ce qui se passe aujourd'hui, puisque ça a des conséquences surtout très, très importantes pour les Britanniques. Nous, en région, on s'attaque à deux sujets importants, les ports et Parce que pour les ports, si on, les ports, c'est important qu'on n'est pas dans la stratégie européenne. Donc, nos ports sur lesquels on a fait beaucoup d'investissements, comme à Brest, par exemple, ou à Lorient, pourraient être la porte d'entrée de la mer du Nord. Brest, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'investissements. Il faudra que ce port vive. Alors, il va vivre avec les énergies marines renouvelables. Mais là, c'est pareil. La feuille de route n'est pas non plus la programmation pluriannuelle sur l'énergie. Fait encore une grande part au nucléaire et moins aux énergies marines renouvelables, alors que c'est le grand sujet que la région est en train de développer. Donc, les énergies marines renouvelables. Là, vraiment, on agit à l'échelle européenne. Après, vous avez aussi la situation des pêcheurs. Il va y avoir des enjeux sur les quotas, sur les partages de zones. Et ça aussi, tant qu'on n'a pas le résultat du Brexit, sorti ou pas sorti, c'est difficile de se positionner. Après, les entreprises bretonnes, elles ont l'habitude de commercer avec les entreprises européennes, donc sans être dans l'import-export, mais elles ont aussi l'habitude d'exporter avec d'autres pays du monde. Donc elles ont cette habitude-là de commercer en dehors de l'Europe, elles seront plus adaptables. Et on a toute une action d'accompagnement aujourd'hui des entreprises pour leur expliquer quels sont les différents scénarios possibles au niveau européen. Mais on en saura un peu plus d'ici demain.
Les prochaines élections européennes, en quoi sont-elles importantes dans le contexte actuel ?
Elles sont extrêmement importantes. Alors, il faut savoir quand même que c'est les élections les moins suivies. Et pourtant, elles sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, vous avez... alors, pourquoi elles sont importantes ? Vous avez vu que politiquement, tous les partis politiques ont explosé en France. Si je prends que la France, les partis politiques ont complètement explosé. Vous aviez à gauche un chef de file qui était le PS, le Parti Socialiste, qui aujourd'hui est quand même en difficulté suite aux dernières élections nationales. Et donc vous avez une gauche éclatée, totalement éclatée, et qui part absolument pas en ordre de marche, puisqu'on est aujourd'hui à 5 ou 6 listes différentes à gauche. Vous avez après le parti présidentiel, fait une liste avec une proposition à l'échelle européenne, une proposition transnationale sur un idéal européen, c'est un parti qui n'est pas très implanté localement, donc il y a aussi chacun a son opinion, mais il faut faire attention aujourd'hui entre les discours et les écrits et les actes, et des fois il y a un petit décalage, donc ça aide pas à faire confiance. Pour autant, c'est un parti libéral, d'accord, on a donc la gauche, des unis, les écolos qui font une liste aussi, les libéraux qui font une liste aussi au niveau européen, et vous avez les populistes, et donc le Rassemblement National aussi, qui est profondément contre l'Europe. Voilà. Sur la gauche, il n'y a pas de consensus européen. Entre la France insoumise et le PS, par exemple, il n'y a pas tout à fait la même vision de l'Europe non plus, donc c'est difficile de s'accorder. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut résumer les élections européennes à dire, on a le choix en gros entre les libéraux de Juncker et Macron, en gros, et les populistes de Marine Le Pen et de Salvini en Italie ? Moi, j'ai peur que la campagne européenne nous amène dans ce choix duel qui dit, en fait, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre l'Europe ? Et si le choix aux élections européennes est de faire le choix, est-ce que vous êtes pour ou contre l'Europe ? Je peux vous garantir que c'est le contre et que c'est votre sanction qui sera plébiscitée. Alors que les élections européennes devraient être le lieu de débat pour savoir de quelle Europe on veut. Quelles vont être les priorités européennes ? Est-ce qu'il faut rogner sur la cohésion sociale ? Est-ce qu'il faut augmenter le budget pour faire plus de choses ? Voilà, c'est quelle Europe on veut. Et si le débat porte sur quelle Europe on veut et qu'on est en capacité de mettre en place du débat suivi, voire avec les différents partis, je suis assez à l'aise, moi je ne suis dans aucun parti, donc je suis assez à l'aise pour en parler. Si on arrivait à inviter les personnes, est-ce qu'il y a un vrai débat sur l'Europe que les peuples appellent de leur vœu, peut-être qu'on sauverait vraiment l'Europe. Voilà. Si c'est la dualité pour ou contre l'Europe, on est ça va être très compliqué. Et surtout, ce n'est pas bon parce que c'est nier finalement toute l'implication qu'a l'Europe sur les territoires. Et je ne sais pas comment on ferait aujourd'hui pour financer des projets structurants si on n'avait pas l'Europe. Donc voilà, c'est un enjeu majeur. C'est une élection à un tour, ce qui n'est pas du tout comme les élections au gouvernement ou aux législatives qui sont des élections à deux tours. Donc c'est un vote et après terminé. Donc il ne faut pas se tromper.
Quand le changement de circonscription a-t-il eu lieu, puisqu'on est passé de circonscription régionale à des listes nationales ? Pour quelles raisons ? N'avez-vous pas peur que les enjeux régionaux soient absents du débat ?
Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est de complexifier parfois l'Europe, enfin en tout cas le mode de scrutin européen, sans être passé par la phase pédagogique qui explique le pourquoi on l'a fait. Moi-même, je ne suis pas vraiment capable de vous dire pourquoi ça marchera mieux dans un autre système que dans celui-là. Et tout ça me semble un montage un petit peu peu travaillé pour être présenté aux citoyens européens et pour qu'ils sachent vraiment qu'est-ce que ça incombe l'un et l'autre. Voilà. Des listes transnationales, c'est difficile de voter pour des gens que vous ne connaissez pas forcément. C'est difficile, on a besoin d'incarner vos élus, qu'ils soient des élus locaux, des élus, des parlementaires européens. On a besoin d'avoir de la proximité avec eux, on a besoin de savoir ce qu'ils font, on a besoin de mettre une tête, un visage et de mettre des valeurs derrière eux. C'est difficile quand on ne connaît qu'une petite partie d'une liste transnationale. Après, il faut changer des choses, mais ça ne doit pas se faire, à mon avis, en décision toujours descendante. Je pense qu'on manque de débats européens à l'échelle des territoires pour justement mieux comprendre l'Europe et pouvoir se positionner.
Tout à l'heure, vous avez parlé des migrants. Et est-ce que ce ne serait pas la solution d'avoir une unité entre les pays qui est en manque en ce moment entre les pays de l'Europe, justement pour qu'il n'y ait pas les personnes qui soient laissées en mer ? Est-ce que ce ne serait pas une unité davantage présente ?
Bien sûr. Je pense que c'est terrible de constater qu'on est aujourd'hui dans une entité, une collectivité européenne démocratique et qu'on ne fait pas consensus sur l'accueil des migrants. C'est terrible. Et qu'on a aussi la façon dont... je viens de perdre le nom. La façon dont... Vous savez, un migrant, quand il arrive sur un territoire, il arrive en Italie, par exemple... le premier endroit où il arrive en Bretagne, en Europe, d'accord, où on va lui demander ses papiers, c'est l'endroit où il va rester. Sauf que son but, c'est peut-être d'aller en Angleterre, c'est peut-être d'aller en Allemagne, c'est peut-être de rejoindre déjà un embryon familial qui existe déjà, en tout cas un réseau social existant. Cette directive qui balade finalement les gens, et encore quand ils sont arrivés, quoi. Beaucoup n'arrivent pas, et c'est terrible. Moi, je ne comprends pas que notre... On nous caractérise de pays développés, quoi. Humainement, est-ce qu'on peut être caractérisé de pays développés et laisser des gens mourir en mer Méditerranée ? Est-ce qu'on peut, comme on a fait la semaine dernière, fournir des bateaux aux Syriens pour qu'ils ramènent les migrants en Syrie, sachant le traitement qui est infligé aux migrants en Libye, sachant le traitement qui leur est infligé ? Je trouve que là, franchement, on n'amène absolument pas un bon message au monde, et pour moi l'Europe c'est avant tout un espace démocratique et un espace c'est aussi un espace d'accueil. Alors ça veut pas dire qu'il faut accueillir tout le monde, ça veut dire qu'il faut organiser l'accueil et pas organiser le rejet, quoi. Il faut organiser l'accueil, sachant que même économiquement, par exemple l'Allemagne dit moi j'ai besoin de faire appel à l'immigration parce que j'ai beaucoup de boulot sur lequel les Allemands ne veulent plus travailler et on a besoin de main d'œuvre, hein. Et pendant longtemps on est allé chercher, si on remonte dans l'histoire, parce qu'il y a eu quand même on a eu une période de révolution industrielle, après de colonisation, etc. On est allé chercher les gens dans leur pays pour les faire venir travailler dans les usines, hein. On est allé les chercher et aujourd'hui on ferme le robinet peut-être, mais en attendant, comment est-ce que quelqu'un qui n'a rien dans son pays, dont les ressources sont exploitées par les pays européens, d'accord, aujourd'hui où est-ce qu'on trouve nos métals précieux pour faire marcher les smartphones par exemple ? C'est en Afrique, hein. Et c'est pas les peuples africains aujourd'hui qui bénéficient de la richesse de leur sol. Et si nous on est devenus des pays développés, c'est parce qu'on a aussi quelque part utilisé les ressources de l'Afrique et la main d'œuvre des Africains. Pour autant, on ne leur a pas conféré des droits de citoyens dans le monde comme ceux que nous avons nous aujourd'hui, et on a même parfois entretenu des systèmes non démocratiques et même des dictatures. Voilà, donc tout ça c'est quand même un héritage de beaucoup d'années où on a laissé le continent africain tout seul quelque part devant ses propres problèmes. Aujourd'hui, un citoyen européen un citoyen africain qui a accès à Internet comme vous tous, qui voit comment on vit en Europe, comment imaginer à partir du moment où il n'a même pas accès à l'eau, qu'il n'a pas accès au travail, qu'il ne peut pas évoluer dans sa vie, comment imaginer qu'il ne puisse pas émigrer ? Et rappelez-vous par exemple que les États-Unis sont un pays d'émigration, sans les Italiens, sans les Africains notamment, hein, mais qui ne sont pas allés par leur propre choix, hein, aux États-Unis, c'est l'esclavage. Le continent américain est un continent de migration. Voilà, et on est tous quelque part le fruit de migration. Donc il ne faut pas en avoir peur, quoi. Voilà, je pense qu'on n'est pas bon là. Voilà, il faut gérer l'Europe sociale pour que ce soit possible dans les messages qu'on passe aussi au niveau des citoyens européens, que tout le monde peut vivre en Europe. Enfin, on peut vivre en Europe, mais il n'y a pas de citoyens de seconde classe non plus. Et les migrants, ben, on ne peut pas y avoir recours quand on en a besoin et les rejeter quand on décide qu'on n'en a plus besoin, quoi. Donc aujourd'hui, la politique, je dirais politicienne, s'imbrique dans des questions d'humanité, tout simplement. Et moi, je crois que l'humanité, elle doit d'abord... elle dépasse la politique. Hein. Et là, il devrait y avoir un accord de tous. Et là, la France aurait pu être fer de lance et taper du poing sur la table et dire, quand l'Aquarius, à un moment donné, ne pouvait pas accéder aux côtes et aux ports de la Méditerranée, la France aurait pu dire, pays des droits de l'homme aurait pu dire, eh bien, nous, on s'engage à accueillir l'Aquarius. Mais non, on ne l'a pas fait. Donc, je suis très déçue, moi, de notre position au niveau État.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci à vous.